Ici Téhéran, voix de la République islamique d'Iran.
Au nom de Dieu clément et miséricordieux. Chers auditeurs, vous allez entendre les versets 62 à 64 de la Sainte Sourate Younes. Notre frère Aziz vous en donne la lecture chantée, vous en aurez ensuite la traduction. Ces versets promettent le bonheur aux amis de Dieu, ici-bas, tout comme dans l'au-delà.
A'oudhou billahi minash shaytanir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم صدق الله العلي العظيم.
Quant aux amis de Dieu, n'est-ce pas ? Point de crainte sur eux en vérité, et point ne seront affligés, qui croient et qui restent pieux. Il y a pour eux bonne annonce en cette vie, tout comme en la dernière. Pas de modification aux paroles de Dieu, voilà l'énorme succès.
Thank you. Chers auditeurs, bienvenue sur les ondes de la radio francophone iranienne. Vous pouvez nous capter tous les soirs de 18h20 à 19h20, temps universel, sur ondes courtes, dans la bande des 49 mètres, sur la fréquence de 6135 kHz, en Europe et en Afrique du Nord. À Téhéran, nos auditeurs peuvent nous entendre à la même heure sur FM, dans la fréquence de 99,5 MHz. Vous pouvez également nous capter sur les satellites Hotbird et Eutelsat 3.
Bonjour et bonsoir amis auditeurs, selon l'heure que vous nous suivez, ravi de vous retrouver en ce mercredi 9 septembre 2021. Nous allons vous présenter dans quelques instants le journal suivi d'un commentaire politique. Frappe aux drones et aux missiles conjugués du CGRI contre une base terroriste au nord-est de l'Irak, non loin de la base US de Harir. Vous aurez ensuite la seconde partie de l'émission. Merci de votre écoute. Une de ce journal, frappe aux drones et aux missiles conjugués du CGRI contre une base terroriste au nord-est de l'Irak, non loin de la base US de Harir. Une approche non constructive au sein de l'AIOA perturberait le processus de négociation, a déclaré le président Raïssi à Charles Michel, le président du Conseil européen. Et puis le premier ministre afghan par intérim, le Mollah Mohammad Hassan Akhund, a appelé les anciens responsables gouvernementaux à rentrer dans le pays. C'était les principaux titres que nous allons tout de suite développer dans ce journal. Bienvenue à tous. À peine 48 heures après la mise en garde du commandant en chef de la force terrestre du CGRI, le général de brigade Pokpour, une base des terroristes séparatistes kurdes a été ciblée dans les hauteurs du nord de l'Irak. Il s'agit d'une offensive particulièrement violente, impliquant à la fois des unités de drones et l'artillerie lourde du CGRI. Selon cette information, les chasseurs, les drones et les unités d'artillerie du CGRI ont bombardé pendant plusieurs heures les localités de Sidkan, de Tchouman et de Haji Omran, où a été visée plus particulièrement une base d'entraînement des terroristes séparatistes de Pejak. Deux types de drones de reconnaissance et kamikazes ont été utilisés au cours de cette frappe d'une précision parfaite. C'est à partir de cette base située dans la ville de Djalala que ces derniers projetaient de lancer d'ici les jours à venir des attaques contre le territoire iranien. Djalala se trouve à quelques kilomètres de la base américaine Harir à Erbil. Le président de la République islamique d'Iran, Seyed Ebrahim Raïsi, a souligné que Téhéran avait été transparent en ce qui concerne ses activités nucléaires, un jour après que l'Agence internationale de l'énergie atomique, AIOA, a critiqué dans un nouveau rapport Téhéran pour son prétendu menace de coopération. Recevant mercredi un appel téléphonique de Charles Michel, président du Conseil européen, le président iranien Seyed Ebrahim Raïsi a averti contre une approche contre-productive de l'Agence internationale de l'énergie atomique qui risque de perturber le processus des pourparlers à Vienne. Il a noté que la coopération sérieuse de la République islamique d'Iran avec l'AIOA reflète manifestement sa volonté de transparence dans ses activités nucléaires. Le président iranien s'est attardé sur le fait qu'une poursuite durable des relations bilatérales avec l'Union européenne et chacun des États membres dépend du principe de respect mutuel, de se concentrer sur les affinités communes et d'éviter l'influence de facteurs externes sur ces relations. Il a indiqué « Cette question nécessite une volonté pratique de l'Europe pour ne pas permettre aux puissances unilatérales, telles les États-Unis, d'imposer leur velléité au détriment de nos relations. » Se référant aux remarques du président du Conseil européen sur les efforts du bloc pour atteindre une indépendance stratégique dans les relations avec les États-Unis, le président iranien a espéré voir l'Europe progresser sur la voie de l'indépendance stratégique. Pour sa part, Charles Michel a déclaré que l'Union européenne a souhaité voir le développement des relations bilatérales et approfondir la coopération économique irano-européenne. Il a reconnu que les sanctions ont eu un effet négatif sur les relations entre l'Iran et l'Union européenne. Alors que Washington a unilatéralement quitté l'accord multilatéral de 2015 sur le nucléaire, le secrétaire d'État américain a déclaré mercredi que l'OTAN était comptée pour que l'Iran fasse le retour à l'accord nucléaire et que Washington est proche d'abandonner ses soi-disant efforts pour relancer le plan global d'action conjoint signé entre Téhéran et les puissances occidentales. Le secrétaire d'État américain Anthony Blinken a dit « Je ne vais pas donner de date, mais nous nous rapprochons du moment où un retour strict au respect du PGAC ne reproduira pas les avantages de cet accord. » Les déclarations tenues par Anthony Blinken interviennent après que l'Agence internationale de l'énergie atomique a publié mardi un rapport fortement formulé, critiquant ce qu'il a appelé le manque de coopération de Téhéran. Un jour après le rapport émis par la IOA, le président iranien Ebrahim Raisi a déclaré que son pays avait toujours fait preuve de la transparence en ce qui concerne ses activités nucléaires. Le chef du gouvernement iranien a également souligné que l'administration Biden s'accroche toujours à la politique de sanctions et de pression de son prédécesseur Donald Trump contre la République islamique. Washington s'est retiré unilatéralement de l'accord en 2018 et a réimposé les sanctions les plus cruelles contre l'Iran. Méfiant, Téhéran croit pourtant qu'un accord est possible si les États-Unis décident d'abandonner la politique infructueuse de Trump. Les autorités iraniennes ont déclaré que l'accord nucléaire de 2015 pourrait être relancé, mais ont exclu des négociations indéfinies. Pour revenir à l'accord, elles veulent que les États-Unis lèvent toutes les sanctions, et cela de manière vérifiable, et garantissent qu'ils ne quitteront plus le pacte. Le représentant permanent de l'Iran auprès des Nations Unies, Majid Tartravanchi, a réitéré le fait que le désarmement nucléaire doit rester une priorité absolue pour le monde. Le diplomate iranien a exhorté la communauté internationale à faire pression sur les États dotés d'armes nucléaires pour qu'ils remplissent leurs obligations juridiques en vertu du traité de non-prolifération d'armes atomiques TNP. Majid Tartravanchi a pointé du doigt les États-Unis pour avoir effectué plus d'un millier d'essais nucléaires depuis 1945. Il a également déclaré que la possession par Israël d'armes de destruction massive et ses menaces de les utiliser ne doivent pas être tolérées. L'ambassadeur d'Iran à l'ONU a fait ses remarques lors de la réunion plénière de haut niveau de l'Assemblée générale des Nations Unies à l'occasion de la Journée internationale contre les essais nucléaires. Nouvelle manifestation palestinienne en Cisjordanie occupée pour soutenir les prisonniers dans les camps de détention israéliennes alors que le régime de Tel Aviv impose de nouvelles restrictions aux détenus. Les militaires israéliens ont attaqué les manifestants palestiniens, blessant 100 d'entre eux. De nombreux détenus palestiniens ont également protesté contre les exactions et les mesures répressives du régime. Le renforcement de la sécurité par Israël dans les prisons, intervient après que 6 Palestiniens se sont évadés d'une prison ultra-sécurisée cette semaine. Humiliés par cette évasion spectaculaire, un tunnel creusé à la petite cuillère dans une prison réputée inviolable, le régime de Tel Aviv a inondé les territoires occupés de forces armées dans le cadre d'une vaste opération de chasse à l'homme. À Jenin, la ville natale des évadés, les forces israéliennes ont déployé d'importants moyens, dont des hélicoptères et des drones, pour tenter de retrouver les fugitifs. Les forces israéliennes ont également appréhendé des membres des familles et des proches des 6 fugitifs. L'actualité, c'est également l'Afghanistan. Le premier ministre afghan par intérim, le mollah Mohammad Hassan Akhund, a appelé les anciens responsables gouvernementaux à rentrer dans le pays. S'adressant à Al Jazeera, le premier ministre par intérim, le Mollah Mohammad Hassan Akhund, réitère la promesse des talibans d'amnistie pour tous ceux qui ont travaillé aux côtés des États-Unis et de l'ancien gouvernement pro-américain. Akhund a également déclaré que le gouvernement intérimaire garantirait la sécurité des diplomates, des ambassades et des organisations humanitaires en poste en Afghanistan. Il a ajouté que les talibans recherchent des relations positives et fortes avec le monde. Les commentaires interviennent un jour après que les talibans ont annoncé leur gouvernement intérimaire. Enfin, les États-Unis affirment que les talibans ont accepté d'autoriser le départ de quelques 200 civils américains et ressortissants de pays tiers restés en Afghanistan après la fin de la date limite du 31 août. Les autorités talibanes ont accepté que 200 civils américains et ressortissants de pays tiers restés en Afghanistan après la fin d'opérations d'évacuation américaine puissent quitter l'aéroport de Kaboul sur des vols charter, a déclaré un responsable américain sous couvert d'anonymat. Le responsable américain a déclaré que le représentant spécial des États-Unis, Zalmi Khalilzad, continue à faire pression sur les talibans pour qu'ils autorisent les départs qui sont attendus pour ce jeudi. Fin de ce journal. Merci infiniment de votre attention. Dans quelques instants, notre commentaire politique reste avec nous. Merci. Aux drones et aux missiles conjugués du CGRI contre une base terroriste au nord-est de l'Irak, non loin de la base US de Harir. À peine 48 heures après la mise en garde du commandant en chef de la force terrestre du CGRI, le général de brigade Pokpur, une base des terroristes séparatistes kurdes a été ciblée dans les hauteurs du nord de l'Irak. Il s'agit d'une offensive particulièrement violente, impliquant à la fois des unités de drones et de l'artillerie lourde du CGRI, et qui a débuté vers 6 heures locales ce jeudi matin. Selon cette information, les chasseurs, les drones et les unités d'artillerie du CGRI ont bombardé pendant plusieurs heures les localités de Sitkan, de Techuman et de Haji Omran, où a été visée plus particulièrement une base d'entraînement des terroristes séparatistes de Hetka Pejak. Deux types de drones de reconnaissance et kamikazes ont été utilisés au cours de cette frappe d'une précision parfaite. C'est à partir de cette base située dans la ville de Jalala que ces derniers projetaient de lancer d'ici les jours à venir des attaques contre le territoire iranien. Jalala se trouve effectivement à quelques kilomètres de Harir, la super base US à Erbil. Dans un communiqué publié il y a quelques minutes, le CGRI affirme « Les unités balistiques de la force aérospatiale ainsi que les unités de drones du CGRI ont ciblé ce jeudi à partir de 6 heures du matin hors local la base d'entraînement des terroristes au nord de l'Irak alors que leur chef tenait une réunion de guerre, leur QG a été visé et démantelé à coups de 7 missiles sol-sol de courte portée. Et d'ajouter, en dépit des mises en garde consécutives du CGRI, la milice terroriste n'a cessé ces dernières semaines de se servir du territoire du Kurdistan irakien à tir de bases aériennes contre l'Iran et d'envoyer des équipes terroristes s'infiltrer dans les régions de l'ouest du pays, quitte à y mener des opérations terroristes et d'actes de sabotage. La brave population de la province d'Azerbaïdjan occidental, du Kurdistan iranien et de Kermanshah ont largement contribué à l'identification, à la localisation des terroristes qui ont reçu ces derniers temps de coups durs dans nos localités frontalières de Marivan et de Kamyaran. Car la traque, la punition des terroristes sont les priorités du contingent terrestre du CGRI. Cette puissante offensive balistique contre les terroristes séparatistes qui agissent en lien direct avec les services secrets étrangers vient d'avoir lieu alors même que parallèlement deux autres opérations ont été signalées. Une en Irak est menée par les unités de Hasht al-Shaabi visant à sécuriser la localité d'Altaremiya au nord de la capitale Bagdad, où quatre entrepôts d'armes appartenant aux agents daéchistes des États-Unis ont été découverts. Altaremiya, qui a été le théâtre d'il y a quelques jours d'une violente opération terroriste visant le QG des forces de sécurité irakiennes et faisant au moins 13 morts dans les rangs de ces derniers.
Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette émission Le Débat. Ces derniers temps, les présidents iraniens et français, respectivement Ebrahim Raisi et Emmanuel Macron, se sont entretenus à deux reprises au téléphone. Les deux présidents ont évoqué divers sujets, coopération bilatérale Téhéran-Paris, des dossiers régionaux, très particulièrement en ce qui concerne en fait la situation au Liban, également de la nécessité de reprendre ces pourparlers de Vienne sur l'accord nucléaire de 2015, connu également sous le nom du plan global d'action conjoint. S'agissant de la coopération bilatérale, les deux présidents ont plaidé pour la nécessité d'augmenter, d'accroître cette coopération bilatérale dans l'entretien téléphonique, dans son entretien téléphonique, son deuxième entretien téléphonique avec le président français Emmanuel Macron. Le président iranien Ebrahim Raisi a dit que voilà, l'Iran est tout à fait prêt à avoir de meilleures relations avec l'Europe et l'Iran est prêt, si vous voulez, à aller dans ce sens depuis la France, c'est-à-dire renforcer cette coopération entre l'Iran et l'Europe depuis la France. S'agissant des pourparlers de Vienne, le président français a appelé à la nécessité de reprendre rapidement ces négociations et le président Raisi a dit que l'Iran n'a aucune, si vous voulez, objection à ces pourparlers, à ces négociations, mais ces négociations devront être utiles, devront être aboutir, devront en fait avoir comme résultat la levée de ces sanctions injustes imposées à l'Iran. On va vous en parler dans le cadre de l'émission d'aujourd'hui avec deux invités. J'ai le plaisir d'avoir avec moi pour cette émission en ligne depuis Toulouse un spécialiste français des questions internationales, M. Pierre Dortiguier. M. Dortiguier, bonjour, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation.
Avec grand plaisir. Bonjour, M. Neurostine. Bonjour à tous vos auditeurs et à votre invité aussi.
Et l'autre invité, M. Dortiguier, de l'émission d'aujourd'hui, c'est un analyste politique économiste qui est avec moi pour cette émission par Skype depuis Bruxelles. Il s'agit de M. Xavier Dupré. M. Dupré, bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation.
Bonjour, M. Neurostine, et merci à vous de m'avoir invité. Et j'en profite pour saluer également M. Dortiguier.
Je vous en prie. M. Dupré, je viens de lancer le sujet. Comment expliquez-vous en fait ce qui se passe actuellement entre l'Iran et la France et ces entretiens téléphoniques entre les deux présidents et ces sujets qui ont été abordés au cours de ces deux entretiens téléphoniques, coopération bilatérale, dossiers régionaux et ces négociations qui devront, si vous voulez, être reprises à Vienne, des négociations sur l'accord nucléaire de 2015.
Mais je crois qu'il faut y voir la conséquence la plus immédiate de la fermeté dont a fait preuve la République islamique d'Iran tout au long de ces derniers mois. Le pays n'a jamais fermé la porte à des négociations. Simplement, l'Iran a toujours affirmé, à juste titre, que le retrait des États-Unis était non seulement unilatéral, mais qu'il était aussi illégal, puisque le PGAC avait produit des effets de droit très structurants. Il s'agit d'un élément important du droit international. Donc, aujourd'hui, ce qui se produit, c'est que finalement, les Occidentaux commencent, enfin, les Européens ont commencé à s'accorder, à respecter cette ligne politique iranienne qui est très cohérente. Et de surcroît, dans le chef de la France, il y a un intérêt majeur à discuter avec l'Iran, puisque on sait bien qu'aujourd'hui, la composition confessionnelle et politique du Liban, un pays auquel la France est très attachée, cette composition-là, eh bien, fait la part belle au Hezbollah. D'autre part, l'Afghanistan est en train aujourd'hui de mobiliser. Les Américains se sont tirés de l'Afghanistan. Très bien. Mais qui va devoir gérer les flux migratoires? Ce sont les pays européens. Donc forcément, l'appel de l'Iran à ce que le futur gouvernement afghan soit le plus inclusif possible, donc quelque part le plus à même de sécuriser ce pays et d'éviter de forts flux migratoires, eh bien, du côté européen, c'est quelque chose qui est évidemment bienvenu et salué, spécialement en France, puisqu'en France, la question migratoire a pris politiquement une importance tout à fait surdéterminante par rapport à d'autres questions. Et de surcroît, il ne faut quand même pas oublier que d'ici un an, Emmanuel Macron va devoir se présenter au suffrage de ses concitoyens. Donc évidemment, il serait malvenu pour lui de devoir faire affronter à son pays une crise migratoire. Forcément, l'Iran, dans ces conditions, devient un élément indispensable en termes d'interlocuteur pour la France. Donc vraiment, c'est aujourd'hui, j'analyse ça, il y a un intérêt français à considérer l'Iran comme un partenaire fiable et crédible, et d'autre part, depuis des mois, l'Iran s'est montré crédible, puisqu'elle n'a, il n'a cessé, ce pays n'a cessé, votre pays n'a cessé de dénoncer, en réalité, un manquement au droit international de la part des États-Unis.
Monsieur Dortiguet, est-ce que vous aussi vous estimez, tout comme Monsieur Dupré, qu'il y a un intérêt français à considérer l'Iran comme un partenaire et crédible et fiable?
Je souscris entièrement à ce que dit, je le remercie vraiment profondément, Monsieur Dupré. La France a intérêt, pour des raisons intérieures, pour des raisons extérieures, mais aussi pour des raisons intérieures, économiques, disons, à continuer la tradition qu'elle avait initiée dans ses échanges avec l'Iran. Je me rappelle d'échanges, par exemple, avec, dont me parlait un de mes amis, qui était inspecteur des banques, inspecteur du Crédit Agricole, qui avait travaillé dans les années 81, 82, disons, avec l'argent de cette banque, pour dans des travaux hydroélectriques en Iran. Tout ceci, vous savez, était couvré, la coopération franco-iranienne a toujours couvert un large champ. Et M. Macron le sait, et je crois que lui-même, disons, est persuadé que l'Iran, évidemment, aussi aide à, enfin, et, disons, est en entier accord avec ses propres intérêts français, c'est-à-dire à l'expérience de la coopération française. Et je ne crois pas que l'Iran, que M. Macron puisse avoir une influence sur les États-Unis, par exemple, ou d'autres partenaires extra-européens comme l'Angleterre. Mais je crois que l'Europe en entier, l'Europe entière, commencer avec surtout l'Allemagne et l'Italie, ont, disons, intérêt à ce que une coopération se continue, disons, avec l'Iran, et que ces fausses querelles qui ont servi de prétexte aux Américains pour se retirer de l'accord de Vienne, c'est-à-dire des sortes de mise en cause de l'armement iranien, etc., enfin, toutes les suspicions qui n'ont pas de fond, puisque ça ne repose vraiment que sur une sorte de propagande éhontée, une sorte d'intimidation. Bon, très bien, les Français, nous, les Français, notre gouvernement français, sait très bien la réalité, le degré de réalité des choses. Et donc, je pense que la France a un rôle à jouer, à jouer le rôle, elle a intérêt à reprendre le rôle qu'elle avait jusqu'à présent, dans sa tradition. Je crois que M. Macron, tout à fait au début de l'élection de M. Ebrahim Raisi, a voulu rappeler, des choses comme l'armement atomique et autres. Mais tout ceci n'était qu'une manière, de bien se faire voir auprès des Américains, mais qu'en réalité, les intérêts français ne sont pas, et européens, je dis bien, ne sont pas les intérêts américains. Que ce soit tant du point de vue financier que du point de vue technique, nous sommes prêts, bien sûr, à cette coopération, et je crois que ce sera un des avantages, qui permettront aussi, si je puis me permettre de faire cette réflexion française, franco-française, à M. Macron d'assurer une réélection, car il n'a devant lui aucune opposition sérieuse. Et donc, je crois que ce qui pourrait être conclu avec M. Macron maintenant, enfin, sous son égide comme président de la République, aura une suite. Hein. Vous voyez, c'est un point assuré. M. Macron n'est pas en fin de règne, comme le fait croire une certaine politique. Vous savez, c'est une politique franco-française toujours qui verse dans les excès. Je crois au contraire, il a une route devant lui. Et quant à ce que M. Dupré a évoqué aussi, comme vous-même sur le Liban, je crois que là, c'est très important. Il est vrai que M. Macron, dans son voyage au Liban dernier, avait voulu tenter, à notre avis, de séparer, de distinguer entre le Hezbollah militaire et le Hezbollah politique. C'était une manœuvre, évidemment, dont on voit les origines, bien sûr, certaines origines, certaines influences. Mais en réalité, il n'en est rien. Je crois que le Hezbollah forme un bloc, tout au moins doit former un bloc et le formera. Et que de ce point de vue, je pense que la France, peut-être sous l'initiative de M. Le Drian, mais notre ministre, je crois, est devenu réaliste. Et je ne crois pas que, je crois que cette reconnaissance, entre guillemets, ou sans guillemets, cette reconnaissance de la présence, de la force, de l'enracinement du Hezbollah, est quand même aussi un point positif, et je ne pense pas que la France reviendra là-dessus. Je crois donc que là, nous avons deux points positifs, la coopération économique avec l'Iran, et en même temps, la reconnaissance de la vérité de la situation politique au Liban. Tout ceci devrait avoir comme troisième conséquence aussi un changement d'attitude envers la politique syrienne de notre gouvernement. Enfin, ceci viendra par la suite. Je crois que, comme dans beaucoup de choses, l'économie l'emporte. L'économie est le premier moteur. À mon avis, c'est le premier moteur et la politique que suit l'économie.
Monsieur Dupré, l'économie l'emporte, selon Monsieur Dortiguier. Et s'agissant en fait de cette coopération bilatérale entre l'Iran et la France était présente sur le marché iranien, sur en fait le secteur du pétrole, sur le secteur de l'industrie, si vous voulez, automobile. La France était en fait fortement présente sur le marché iranien. La France a quitté ce marché, si vous voulez, de bénéfique sous des pressions américaines. Et là, lors de cet entretien téléphonique, les deux présidents ont évoqué également cette coopération bilatérale et se sont montrés favorables à accroître, à développer cette coopération bilatérale. Et la France était en quelque sorte, de ce point de vue, victime également de la politique américaine, M. Dupré, parce que la France a quitté le marché iranien sous des pressions américaines, et cette coopération bilatérale, ce développement de cette coopération bilatérale peut être avantageuse tant pour la France que l'Iran, M. Dupré, n'est-ce pas ?
Absolument. Donc, il faut être très clair là-dessus. Les sanctions et les mises sous pression datent de l'adoption des lois Helms-Burton et Damatour au milieu des années 90 aux États-Unis. Et donc, régulièrement, des entreprises européennes qui ont une conception plus classique du droit international. Il n'y a pas d'extraterritorialité. Seules, si des sanctions doivent être adoptées, elles ne concerneront que des acteurs européens. Mais ces dispositions-là ont frappé terriblement des intérêts européens et spécialement des intérêts français. On se souvient de l'amende record qui avait frappé BNP Paribas, grande banque française. En ce qui concerne le secteur pétrolier, ou plus largement, je préférerais parler du secteur des hydrocarbures, on sait qu'aujourd'hui, les grandes firmes dans le secteur, les grandes multinationales du secteur, doivent pratiquer un mix énergétique. Donc, c'est-à-dire à la fois avoir du pétrole, du renouvelable en petite quantité et du gaz. Or, on observe que depuis des années, Total, dans son mix énergétique, manque d'accès au gaz. Forcément, le gisement gazier iranien, le deuxième au monde, est très intéressant pour Total. Et évidemment, les grandes firmes pétrolières américaines, avec cette politique de sanctions, elles qui bénéficient du gaz et du pétrole de fracking, eh bien, tout simplement, pénalisent un gros acteur. Total est un grand acteur sur la scène des grands groupes pétroliers. Idem en ce qui concerne PSA. PSA a été très présent en Iran et évidemment, tout ce qui pourra gêner le développement de PSA, eh bien, c'est aussi, puisqu'aujourd'hui PSA fait partie d'une immense alliance Stellantis qui comprend également Chrysler. Donc, quelque part, les États-Unis empêchent une partie d'un groupe, du groupe, hein, donc PSA, une partie de l'alliance Stellantis de se développer parce que, quelque part, les États-Unis défendent leur géant automobile. Ce sont de vieilles pratiques. Et nous en avons souvent été victimes en Europe. De surcroît, je crois qu'il faut qu'on comprenne très très fort que la politique des sanctions des États-Unis aujourd'hui, de la même manière qu'ils ont imposé ces sanctions extraterritoriales, les États-Unis ont pratiqué un conditionnement des politiques de coopération bilatérale directe. Tout ceci, non seulement a pénalisé l'Europe, mais en plus a favorisé la Chine. Ce qui est respectable, si la Chine ne pratique pas de politique de conditionnalité et n'applique pas, ne se laisse pas impressionner par des menaces extraterritoriales, il est normal que la Chine profite de l'ouverture de certains marchés. Cela dit, il est de bon ton, et c'est dans ce sens que je ne puis que me réjouir de cet entretien entre les présidents Raisi et Macron, il est de bon ton que nous autres Européens, eh bien, tout simplement, nous décidions à un moment donné de défendre nos intérêts propres, dans la mesure du possible. Et là, à ce moment-là, on peut obtenir quelque chose, on peut en tout cas mettre en œuvre un certain nombre d'alternatives à cette espèce de loi de l'impérium américain qui s'impose à tous. En ce sens, oui, il est bon pour nous de défendre nos intérêts. Ce coup de téléphone va dans ce sens-là et nous avons en Europe terriblement souffert de notre proximité dangereuse avec les États-Unis. Quand on pense à la manière dont General Electric a repris et dépecé Alstom en France même, sur le territoire français, eh bien, oui, forcément, l'analyse économique la plus froide et la plus instrumentale m'incite à vous dire qu'il y a matière à défense des intérêts européens. Et il est heureux que ça se soit manifesté dans le cadre du dossier iranien.
Monsieur Tortillier, un mot sur ce que vient de dire, en fait, Monsieur Dupré était sur ce sujet. Ensuite, je vais vous poser, en fait, ma question.
Eh bien, je dirais, si vous voulez, en deux mots. Pour résumer M. Dupré, que les intérêts français sont identiques sur ce point aux intérêts européens. Et donc, lorsque M. Macron parle avec le président Raisi, en fait, c'est l'Europe qui parle avec le nouveau président Raisi. Voyez-vous, et ceci est très important. Il ne faut pas le voir simplement, le limiter au point de vue français. La France, ici, sert, disons de porte-parole, disons, à tous les intérêts européens. Et ceci formerait, bien sûr, une masse très importante au bénéfice de l'Iran, mais aussi au bénéfice de l'Orient, c'est-à-dire permettrait, évidemment, d'introduire plus de justice dans le monde.
Monsieur Tortillier, s'agissant en fait de ces négociations sur le nucléaire iranien qui devront avoir lieu à Vienne, la position de l'Iran consiste à dire que négocier pour négocier, ça ne sert à rien. Ces négociations devront aboutir, devront avoir en fait un résultat. Et du côté de Téhéran, on insiste sur le fait que ce résultat doit être la levée complète des sanctions imposées par les États-Unis contre l'Iran. Comment expliquer cette position de Téhéran, s'il vous plaît?
Eh bien, c'est une position tout à fait légitime, évidemment. Ces sanctions sont un crime. J'ai moi-même, disons, pu vérifier s'il y a de très nombreuses années à Téhéran, quand j'ai voulu acheter avec ma carte bleue, par exemple, j'ai vu que l'Iran était tout à fait en dehors, avait été, disons, rayé du système bancaire. Et donc, toute cette perte qui a été infligée au commerce iranien, aux productions iraniennes, bien sûr, sont une injustice dont on n'a pas d'autres exemples après la fin de la guerre. Et je crois qu'il faut y revenir, il faut revenir. C'est-à-dire que s'il y a des échanges économiques qui sont demandés certainement par les Européens, et donc M. Macron est l'interprète, hein, eh bien, par là même, ces sanctions seront levées automatiquement. Voyez-vous, c'est-à-dire que les Européens ne pourront pas supporter qu'avoir affaire à un Iran sanctionné. Un Iran qui est toujours un peu, disons, à la traîne, mais expulsé du système bancaire. Ceci est absolument ignoble. Et je crois que les États-Unis devront s'incliner devant cette chose-là parce qu'eux-mêmes peuvent faire l'effort. Mais disons que ne pas oublier quand même que l'Europe, la France et l'Europe représentent sur ce plan industriel, sur le plan du développement technique, sur le plan de l'invention scientifique, également une très grande force qui est antérieure aux États-Unis, qui a nourri les États-Unis, du reste, après la guerre, surtout l'Allemagne a nourri les États-Unis. Et là, bien sûr, nous retrouvons dans une situation qui fait que, comme le dit l'Iran, les négociations doivent être utiles. C'est-à-dire que ça ne doit pas être le prétexte à traîner pour pouvoir ensuite accuser l'Iran de lui faire un procès d'intention. Non, il faut être réaliste. Les négociations économiques sont des négociations réalistes. Et bien, de même, ce réalisme-là doit aussi avoir lieu, disons, doit se produire, doit se manifester dans le domaine de nucléaire. C'est-à-dire ne pas chercher de fausses accusations, des arrière-pensées, et quand même avoir aussi, je me permets de le dire, l'honnêteté de dire que, avant d'accuser l'Iran de vouloir se doter de l'arme atomique, on pourrait regarder quand même autour de soi en Orient qui possède déjà l'armement atomique. Bon, c'est pas la peine, chacun le sait. Et donc, il y a quand même, disons, une pudeur à avoir. Je crois que le réalisme économique va appeler à son secours l'honnêteté politique.
Monsieur Dupré, votre avis sur ce sujet également. Nous avons 2 minutes devant nous.
Eh bien oui, effectivement, les négociations économiques, le développement de relations commerciales entre l'Iran et l'Union européenne, et c'est vrai, le président Macron a été un porte-parole, eh bien tout ça suppose l'élimination des sanctions pour une simple et bonne raison, c'est qu'aujourd'hui recevoir un paiement ou effectuer un paiement à destination de l'Iran, donc une transaction financière de base, c'est complètement bloqué. Donc dès qu'il y aura développement des échanges, il y aura fatalement un besoin de bouleverser, de remettre en cause de fond en comble ces sanctions, spécialement dans le domaine bancaire.
Monsieur Tortillier, un dernier mot. Nous avons, Monsieur Dupré était très rapide. Un dernier mot, nous avons 1 minute devant nous.
Le réalisme l'a emporté. Le réalisme repose sur, amène avec lui la raison. C'est ce qu'on appelle l'honnêteté dans les échanges. Reconnaître, voir les choses comme elles sont et non pas comme on voudrait qu'elles soient. C'est exactement ce qui a été la philosophie, disons cartésienne, si je puis dire, qui préside à ces retrouvailles entre la France et l'Iran, et nous nous en félicitons hautement, et quelles que soient des appréciations différentes que nous pourrons avoir sur la personne du président, c'est-à-dire que cet acte-là sera au bénéfice du président de la République française, et derrière lui, il a l'économie française et l'économie européenne.
Monsieur Pierre Tortillier, analyste politique et spécialiste des questions internationales, je vous remercie infiniment d'avoir été avec moi pour cette émission en ligne depuis Toulouse. Mes vifs remerciements vont également à vous, M. Xavier Dupré, analyste politique, économiste et spécialiste des questions internationales, d'avoir été avec moi pour cette émission depuis Bruxelles. C'est la fin de l'émission d'aujourd'hui. Merci infiniment de l'avoir suivi. Je vous souhaite à vous toutes et tous une très bonne journée. Je vous dis au revoir, amis, et à très bientôt.
L'idéologie et la pratique des courants takfiristes. Aujourd'hui, les experts craignent une possible nouvelle ère du terrorisme takfiriste au Moyen-Orient et en Asie centrale. La plus grande menace vient des groupes affiliés à Al-Qaïda et au groupe Daesh, qui ont été affaiblis ces dernières années, mais restent actifs. Dans le cadre de l'accord conclu avec les États-Unis, les talibans ont promis de ne pas héberger de groupes extrémistes ayant l'intention de mener des attaques contre des cibles occidentales. Mais ces liens avec Al-Qaïda restent apparemment étroits. Quant au rival d'Al-Qaïda, c'est-à-dire Daesh, certains experts estiment que le groupe sera mis sous pression pour démontrer son importance. L'État islamique de la province de Khorasan, Daesh-K, un groupe affilié à Daesh, n'a pas perdu de temps et a perpétré un attentat à l'extérieur de l'aéroport de Kaboul le 26 août, qui a tué pas moins de 170 personnes, dont 13 membres des services américains. Mais à part une idéologie fondamentaliste, qu'est-ce qui différencie ces trois groupes? Colin Clark, chercheur et analyste de la sécurité au Soufan Center de New York, résume la situation en ces termes. Les talibans sont l'acteur le plus important en Afghanistan. Al-Qaïda est un groupe djihadiste transnational qui cherche à reconstruire ses réseaux. L'organisation Daesh l'est aussi, mais il aura une bataille difficile à mener étant donné qu'il est l'ennemi mortel d'Al-Qaïda et des talibans, explique-t-il à la BBC. Al-Qaïda et les talibans sont nés de la résistance à l'invasion soviétique à la fin des années 1980 et des luttes internes de l'Afghanistan au début des années 1990. Le groupe Daesh a émergé des années plus tard des restes d'Al-Qaïda en Irak. Une ramification locale d'Al-Qaïda, fondée en réponse à l'invasion américaine de l'Irak en 2003. Le groupe a disparu dans l'ombre pendant plusieurs années, après l'arrivée massive des troupes américaines en Irak en 2007. Mais il a commencé à réapparaître en 2011. Al-Qaïda a été fondé par le millionnaire saoudien Oussama Ben Laden à la fin des années 1980. En anglais, son nom signifie « la base » ou « le réseau » et il a servi de réseau de soutien logistique et d'armement pour les musulmans qui ont combattu l'Union soviétique. Ben Laden a recruté des individus dans tout le monde pour rejoindre Al-Qaïda. Les talibans ou étudiants en langue pachtoune sont apparus au début des années 1990 dans le nord du Pakistan, après le retrait des troupes soviétiques d'Afghanistan. On pense que ce mouvement à prédominance pachtoune est apparu pour la première fois dans les séminaires religieux, financés pour la plupart par de l'argent provenant d'Arabie saoudite, qui prêchait une forme dure du wahhabisme. La promesse faite par les talibans dans les régions pachtounes à cheval entre le Pakistan et l'Afghanistan était de rétablir la paix et la sécurité et d'appliquer leur propre version wahhabite austère de la charia une fois au pouvoir. À partir du sud-ouest de l'Afghanistan, les talibans ont rapidement étendu leur influence. En 1996, ils s'emparent de Kaboul, renversant le gouvernement du président Burhanuddin Rabbani. En 1998, les talibans contrôlaient près de 90% du territoire afghan. À cette époque, Al-Qaïda était devenue bien plus qu'un réseau de soutien logistique. Elle s'est transformée en une organisation terroriste aux ambitions mondiales. Et le régime des talibans, par gratitude et en échange de financement, les a accueillis en Afghanistan. Mais la branche irakienne d'Al-Qaïda, qui était devenue un acteur clé en Irak, avait également des aspirations mondiales avec des idées différentes des principes originaux d'Al-Qaïda. En 2006, elle a intégré d'autres groupes extrémistes et adopté le nom d'État islamique. Après 2011, alors qu'il progressait dans une Syrie ravagée par la guerre, l'État islamique s'est rebaptisé État islamique en Irak et au Levant, Daesh, s'autoproclamant califat et prenant d'emblée ses distances avec Al-Qaïda. Si les intérêts des talibans se situent en Afghanistan, Al-Qaïda et Daesh ont des ambitions mondiales. Par crainte que l'histoire ne se répète, les Afghans ont tenté de fuir le pays en masse après le retour au pouvoir du groupe. Daniel Piman, spécialiste du terrorisme et du Moyen-Orient à l'Université de Georgetown de Washington, estime que les enseignements d'Al-Qaïda et de Daesh sont encore plus radicaux. Il a déclaré à la BBC que si les talibans visent à ramener l'Afghanistan à un passé idéalisé, ils ne cherchent pas à changer les autres pays. Selon Biman, bien qu'Al-Qaïda et Daesh aient tous deux des aspirations internationales et aspirent à créer un califat, ils diffèrent sur un point crucial. Alors que Daesh veut créer un califat maintenant, Al-Qaïda pense que c'est trop tôt. Il pense que la communauté djihadiste et les sociétés musulmanes ne sont pas prêtes, ce n'est pas leur priorité. Al-Qaïda est surtout connu pour son attaque contre les tours jumelles de New York le 11 septembre 2001. Avec ses méthodes à fort impact, le groupe vise à dynamiser les combattants du monde entier et à chasser les États-Unis du Moyen-Orient, en particulier de l'Arabie saoudite et des lieux saints. Sa propagande tourne autour de l'idée que le djihad est l'obligation de tout musulman, mais les objectifs d'Al-Qaïda priment sur les objectifs locaux. Biman affirme que Daesh fait également valoir ses arguments, mais avec une approche beaucoup plus violente. Pour Daesh, le terrorisme fait partie de la guerre révolutionnaire. dans les territoires qu'ils contrôlent, ils organisent des exécutions de masse, des décapitations publiques et des viols. Ils cherchaient à terroriser la population locale pour la soumettre. Al-Qaïda, si je peux utiliser ce terme, a une approche un peu moins violente, a-t-il déclaré. Entre 2014 et 2017, Daesh a largement étendu son territoire en Syrie et en Irak. En mars 2019, le califat a été déclaré défait après avoir perdu son dernier territoire en Syrie. Mais il s'est transformé en un réseau clandestin et reste une menace. Les talibans, Al-Qaïda et le groupe Daesh ont tous réussi à recruter des personnes au sein de ces populations locales pour les rallier à leur cause. Avec des ambitions mondiales, Al-Qaïda et Daesh ont également réussi à recruter des personnes bien au-delà des frontières du Moyen-Orient.